Mon propos se situe bien en deçà de Bourdieu, bien en deçà de Gucci. Je militerai, ça ne surprendra pas ceux qui me connaissent au contraire, pour la modernité, pire encore pour le modernisme. Et mon propos portera, je dirais, sur une autre tradition française que la tradition bourdieusienne, une tradition qui a d'ailleurs son impact à Cerisy, je la nomme une tradition structurale, et j'évoquerai le poncif dans sa consistance logique. Alors j'ai intitulé mon exposé « Pourquoi Baudelaire ?» Une archéologie du poncif, nous partageons tous ce matin cet autre trait relativement français. Quand il y a quelque chose de bien dans la littérature française, on peut le dire, qu'il y ait un goût de l'histoire. Donc, pourquoi Baudelaire, une archéologie du poncif? J'aurais mieux fait de dire avec un soupir d'ailleurs, Baudelaire encore, parce que Baudelaire à lui tout seul est quasi devenu un poncif. Deux raisons à ce titre, mon ignorance, non pas revendiquée mais factuelle de la mode, et ma connaissance de Baudelaire. Baudelaire écrit, tout le monde le sait, un opuscule intitulé « Le peintre de la vie moderne » qui s'ouvre sur un chapitre intitulé, c'est important la manière dont un livre commence, « Le beau, la mode et le bonheur ». Voilà le terme qui manquait jusqu'à présent, le bonheur. Le départ vaut lecture. Je cite « Il y a dans le monde des gens qui vont au musée du Louvre » passent rapidement et sans leur accorder un regard devant une foule de tableaux très intéressants, quoique de second ordre, et se plantent rêveurs devant un Titien ou un Raphaël, un de ceux que la gravure a le plus popularisé, puis sortent satisfaits, se disant « je connais mon musée ». Il existe aussi des gens qui, ayant lu jadis Bossuet et Racine, croient posséder l'histoire de la littérature. Ce qui me fait rigoler ici, c'est que je pense bien entendu que pour la plupart d'entre nous, pardon les jeunes étudiants, je doute fort que Titien, Raphaël, Bossuet et Racine soient pour vous des éléments bien connus. Mais enfin, à l'époque de Baudelaire, c'est supposé être le cas. Vous remarquerez néanmoins qu'en réalité, ce sont des gens qui font semblant la plupart du temps d'avoir lu Bossuet, Racine, de maîtriser Titien et Raphaël. Baudelaire n'est pas un débile mental. Par bonheur, je poursuis ma lecture de Baudelaire, se présentent de temps en temps des redresseurs de tort, nous autres à Cerisy, des critiques, des amateurs, des curieux qui affirment que tout n'est pas dans Raphaël, que tout n'est pas dans Racine, que les poètes aé minores ont aussi du bon, du solide, du délicieux. Bref, Baudelaire ouvre son opuscule en constituant la classe de ceux qui ne savent pas regarder le second ordre. À l'inverse, évidemment, il y a ceux qui savent regarder le second ordre. Il existe donc un regard qu'on pourrait dire flottant, mais vif, latéral, oblique. Un regard qui sait voir sans voir, qui accroche ce qui n'est pas le chef-d'œuvre et qui perçoit ce qui n'est pas signé, ce qui est anonyme. Par opposition donc à celui qui perçoit moins en réalité, et c'est ça qu'il faut regarder quand on lit les textes attentivement, le génie en lui-même, Titien ou Raphaël, que le génie qui déjà a été reproduit, un Titien, un Raphaël, un de ceux que la gravure a le plus popularisé. Autrement dit, déjà là, nous sommes à la moitié du XIXe siècle, l'original de Titien et de Raphaël ne vaut que parce que celui qui va au Louvre y reconnaît ce qu'il a déjà vu dans une gravure. Donc en fait, on est déjà, la partie se joue déjà entre un multiple et un autre multiple, un faux unique, un vrai unique, enfin l'unique n'est pas là où on croit surtout. Donc le Titien, le Raphaël, c'est déjà l'unique qui est devenu série, et ce que Baudelaire décrit est donc en fait moins déjà le classique que le régime du classique à l'ère de la reproduction, ce que, un siècle plus tard, Clement Greenberg appellera le kitsch, on pourra peut-être avoir une discussion sur le kitsch, c'est-à-dire le devenir multiple du classique, c'est-à-dire, aujourd'hui, la Mona Lisa sur un mug. Le second ordre n'est pas le banal. Le second ordre, c'est ce qui n'est pas apprécié ou pas encore apprécié, ce qui n'est pas signé, ce qui est essentiellement, ça oscille, entre le sans nom et le petit nom. Ensuite, dans le texte, c'est plus connu, ça m'intéresse un peu moins, Baudelaire précisera l'opposition entre beauté classique et beauté particulière, beauté de circonstance et trait de mœurs. Il milite ici pour l'extension du dictionnaire des artistes digne d'être étudié, on pourrait dire pour le catalogue des artistes digne d'être étudié. Et voilà l'accroche. Ce second ordre, ce que nous voyons la plupart du temps sans le voir, possède la qualité essentielle du présent, ce que Baudelaire appellera le moderne. Il expose la valeur historique du présent comme tel. Le regard qui admet le second ordre porte donc sur l'index et l'indice du présent. Ce qui m'intéresse, c'est que dans ce texte, matriciel, chaque fois qu'on parle de la modernité, on vous rappelle que c'est Baudelaire qui a inventé le terme, ou plutôt l'a introduit dans la langue française, ou lui a donné ses lettres de noblesse. Ce qui m'intéresse, c'est que le lieu d'incarnation de ce moderne, le lieu d'incarnation de ce second ordre, c'est le costume. Ce sera donc la base continue de mon exposé. Le poncif, j'y viendrai, c'est ce vocable, ce mot, qui noue ensemble les deux termes d'une équation dont je soutiens qu'elle a été élaborée au XIXe siècle et qui sera élaborée aussi bien en anglais, en français qu'en allemand, peut-être en italien, pardon, et qui repose sur un fait réel, une aperception, comme on dit en philosophie classique, à savoir que le présent a son plan de lecture privilégié dans le vêtement. Dès lors, le vêtement est tiraillé entre la présence du présent, qu'on peut appeler modernité, et la représentation du présent, qu'on appellera la mode. Mon hypothèse, c'est que le poncif, c'est le passage de l'un à l'autre. Baudelaire le dit en clair, puisque pour formuler le concept même de modernité, il passe par la mode. Mais ensuite, les détracteurs de la mode eux-mêmes feront exactement comme lui. Entre caricature et statue antique, le costume épouse des variations. Au passage, notons, ce serait l'objet d'un autre colloque, que Baudelaire sait la difficulté à exposer la mode, puisqu'il dit dans ce texte même qu'elle a un aspect fantôme. Ensuite, ce serait un autre débat avec l'autre partie d'Emmanuel Coccia, il montre comment, en réalité, l'histoire de la mode se déploie comme la grande galerie de l'évolution. Je lis, les transitions y seraient aussi abondamment ménagées que dans l'échelle du monde animal, point de lacune, point de surprise. Bref, la mode est dans le peintre de la vie moderne une rampe de lancement pour la théorie du beau. Double, comme on le sait, éternel et circonstanciel, la formule est célèbre, cet élément circonstanciel du beau est, je cite, si l'on veut tour à tour ou tout ensemble, l'époque, la mode, la morale, la passion. Le plan de lecture de Baudelaire, toutefois, n'est pas ici, autre poncif, grâce à Walter Benjamin sur poncif. Là, c'est, on a une camarade, enfin, qui a été, bref, Emanuele et moi, qui est Barbara Carnevali, qui travaille d'ailleurs sur ces questions, et qui, elle a inventé un truc qui est le gage. Dès que vous évoquez Walter Benjamin, elle vous colle un gage. Ce qui est vraiment dommage, parce que c'est génial, mais ça a été tellement lu, relu, etc., que Benjamin lui-même, comme Baudelaire, est devenu un poncif. Donc le plan de lecture de Baudelaire n'est pas la rue parisienne, mais le croquis de mœurs et sa diffusion en multiples via le processus de la lithographie. Autrement dit, on est déjà dans les médias, qu'il s'agisse de Titien ou de Raphaël ou du simple vêtement anonyme. Le plan de lecture, c'est déjà un double plan de lecture qui est celui de la médiatisation. L'artiste témoin est, dans les pages qui suivent ce texte, Constantin Guis, le peintre de la vie moderne, dont Baudelaire explique en passant qu'il est un dandy, mais un dandy étrange puisqu'il fait œuvre de sensibilité là où le dandy doit professer l'insensibilité. La mode est donc, c'est mon argument numéro 2, ou le codicille, le lieu d'un paradoxe. Et voilà pour répondre à l'argument du colloque, son indiscipline. D'un côté, la mode est passage à la limite d'un style à l'autre, c'est ce que j'appellerais sa délinquance constitutive, et de l'autre côté, une impuissance à définir un champ propre. Au fond, mon argument porte, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image, sur le statut logique du poncif, puisque le poncif est à mes yeux l'arme de franchissement de ses limites. Surgit cependant, contrairement à ce que je viens de dire, la rue et le lieu par excellence du vêtement contemporain, la foule. La rue, c'est-à-dire le nombre, je cite Baudelaire dans les termes, hein, je n'ai pas apporté la Pléiade, ce que j'avais déjà, Barthes, ça me suffisait malgré ma grosse valise, dans laquelle tout le monde a cru que j'amenais plein de tenues, pas du tout, je suis en uniforme, le nombre, le fugitif, l'infini. Je tiens néanmoins à dire que j'ai plein de t-shirts blancs et que, contrairement à ce qu'a cru la mère d'un de mes camarades chez qui j'ai passé un moment de vacances, je ne suis pas une souillon qui n'a qu'un seul pantalon et un seul t-shirt. Mais bon. J'ai plusieurs fois le même, ce qui est exactement l'argument de mon propos. Le nombre, le fugitif, l'infini. Et voilà ce que représente Constantin Guisse. Tel est le texte, j'ai presque honte de le rappeler, je l'ai déjà dit. Tout cela est devenu un poncif, c'est-à-dire une série de syntagmes, je traduis, hein, de petites phrases, répétées ad nauseam, une affaire entendue. Tel est le moment Baudelaire, et tel que le voulut lui-même Baudelaire, qui note dans Fusée, Pléiade 1, page 662-661, je sacrifie au rite universitaire, donc je cite, « Créer un poncif, c'est le génie. Je dois créer un poncif. » Une ligne de blanc. Le concetto est un chef-d'œuvre. Et dans la page précédente, qui explique cette nécessité à créer un poncif, ce qu'il y a d'enivrant dans le mauvais goût, c'est le plaisir aristocratique de déplaire. Ces trois petites phrases baudelairiennes résument à elles seules, à mon avis, l'argument, comment dire, du poncif, c'est-à-dire cet unique qui deviendra multiple, qui néanmoins, au moment où il apparaît, vous frappe comme une pointe, le concetto, et qui prend le risque de déplaire parce qu'il est comme un aristocrate. Fusée, c'est le titre de la première série de fragments regroupés sous le titre des journaux intimes. Baudelaire n'a jamais pensé publier des journaux intimes, il faut le dire, et Pichois dit bien, son éditeur dans la Pléiade, que Baudelaire lançait ses fusées pour lui seul. Ce qui m'intéresse, c'est que ce poncif, cette volonté de poncif apparaît dans un texte qui est fait de fragments et qui se présente comme une liste. Une liste où le poncif est ce un, voilà mon moment logique, qui inaugure la copie, la répétition, la reprise. Il est ce un qui deviendra prototype après coup, cet effet de nouveauté, de rupture de la tradition qui annonce une série qui fera à son tour tradition. À cet égard, il relève bien de ce que l'historien de l'art américain, qui lui-même est une référence, archi-poncif pour l'étudiant anglo-saxon, un peu moins pour l'étudiant de langue française, intitulait « La tradition du nouveau », c'est-à-dire l'art moderne. Il est avant-garde qui devient reproductible. Et dès lors, deux destins pour lui, kitsch ou pas kitsch. On peut cependant, et on doit surtout, distinguer entre le prototype industriel qui vise à la fabrication en série, et le prototype littéraire qui, pour sa part, ouvre à la fabrication de séries. D'un côté, des objets identiques à eux-mêmes, de l'autre, des variations. Pichois, l'éditeur donc de Baudelaire, note néanmoins que ces fusées, il les tirait de deux références, « skyrocketing », expression d'Edgar Poe, et « Voltaire ». Autrement dit, dans les deux cas, je dirais une tradition de l'ironie et du fragment moraliste. Ceci est d'autant plus amusant que le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, à peu près contemporain, s'ouvre pour sa part, lui aussi, dans cette filiation du fragment moraliste, par une citation de Champfort. Champfort, je le situe vite, hein, 18e siècle, c'est pas un moraliste du 17e, c'est un moraliste du 18e. Et voilà ce qu'écrivait Champfort que assume Flaubert. Il y a à parier que toute idée publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre. En Baudelaire et Flaubert, donc, on a deux auteurs qui, à la fois, firent scandale, tous deux ont droit à des procès, les Fleurs du Mal et Madame Bovary, au mi-temps du XIXe siècle, et en même temps inaugurent une poésie et une héroïne qui sont devenues la poésie par excellence, la femme par excellence, et font littérature du trivial et du fait divers. On y repère, dans les deux cas, deux opérateurs fondamentaux de la mode, enfin, j'ose pas dire ça, de la mode telle qu'elle est pensée à partir du poncif, voilà, je me corrige tout de suite, vous allez comprendre pourquoi, le nombre, ça encore tout le monde est d'accord, et la bêtise. Le nombre, alors que le nombre soit au cœur du dispositif du dispositif, Fuset le formule, mais aussi, à l'inverse de Chamfort, Baudelaire, la formule est connue. Le plaisir d'être dans les foules est une expression mystérieuse de la jouissance de la multiplication du nombre. Tout est nombre, l'ivresse est un nombre. Bref, le fait de contemporain de la société des foules est transmuté par Baudelaire en un phénomène poétique, puisque depuis toujours la poésie compte les maîtres, les rimes, les rythmes. Quant à la bêtise, elle est doctrinée, on le sait évidemment, par Flaubert en la personne, non pas de Madame Bovary, mais du pharmacien Homais. Madame Bovary est tout sauf bête. Donc, elle est doctrinée par Baudelaire dans une série d'épigrammes sur la Belgique qui empruntent le mode de la méchanceté et de la satire. Le belgidio est un poncif que la forme brève et méchante dit à merveille, mais ceci nous rappelle que le poncif est une arme. Le poncif est surtout à la fois une forme brève qui se situe dans le flux, qui l'arrête et le relance. Bref, il est un fait littéraire à l'âge du capitalisme, je cite Benjamin, Baudelaire ayant doctriné avec un petit texte charmant qui s'appelle Comment on paie ses dettes quand on a du génie, à propos de Balzac, l'entrée de la littérature dans l'ère industrielle. En reprenant le titre poncif lui-même de Benjamin, Charles Baudelaire, un poète lyrique à l'âge du capitalisme, on pourrait soutenir que le poncif est à la fois la trace du lyrisme, ça va être l'un des points de rencontre de mon exposé avec celui d'Emmanuel et je veux créer un poncif, et le naufrage de la subjectivité. Je rappelle que le lyrisme est supposé être la poésie du moi, naufrage de la subjectivité, puisqu'au moment même où je m'affirme dans le poncif, en même temps je crée cet objet qui va être réapproprié par tous, et donc je vais disparaître dans le flux de tous ceux qui me ressembleront. Je traduis, mon vêtement me traduit-il ou m'efface-t-il? Le poncif a donc ceci de singulier à l'âge de Baudelaire et de Flaubert, qu'il est non pas seulement un phénomène mondain, le blabla de la conversation, Chamfort, si vous voulez, l'âge des salons, mais un fait de la modernité comme ère de la reproductibilité, je dirais, une matrice du design où le poncif flirte avec le standard et le type. Comme souvent, malheureusement ou heureusement, Baudelaire est contradictoire. Il dirait sujet à deux postulations. Dans le salon de 1846, en effet, qui anticipe de presque 15 ans, le peintre de la vie moderne, un paragraphe, un alinéa, traite du chic et du poncif, ce qui, au passage, me justifie pleinement à évoquer Baudelaire sur cette affaire. Ce qui m'intéresse ici, c'est que nous sommes dans la critique d'art et que donc le poncif, Baudelaire, ne rentre pas dans le poncif par son vœu littéraire, il y rentre par le regard qu'il porte sur la peinture et essentiellement sur le corps. Car le poncif, dans la critique d'art baudelairienne, est une attitude du corps. Le chic est ici défini de manière amusante, abus de mémoire, dit-il. Traduisons, incapacité au présent. Ce qui justifierait presque Gucci. Le poncif en est proche, mais localisé. Il y a, écrit Baudelaire, des colères poncifs, des étonnements poncifs. Il y a sûrement une manière de parler dans un colloque poncif, je ne sais pas si je l'incarne à merveille. Non pas des sentiments, donc, mais leur représentation, ou plus exactement, leur incarnation. Le poncif est ici fondamentalement geste et attitude du corps, geste dont l'interprétation figée est admise, la main sur le cœur. Voilà l'expression qu'évoque Baudelaire, qui signifie que vous êtes affecté ou que vous avez, interprétation triviale, mal digéré. Autrement dit, le poncif relève de la théâtralité telle qu'elle est définie, pardon Emanuele, je prends un autre Roland Barthes que toi, telle qu'elle est définie par Roland Barthes dans un très joli texte qui s'intitule « Le théâtre de Baudelaire », à savoir « le théâtre, je cite moins le texte, une épaisseur de signes et de sensations qui s'édifie sur la scène. Ce qui importe à Baudelaire, nous dit Barthes, c'est la corporéité de l'acteur, son corps exposé, lieu d'une ultra-incarnation. » On croirait être dans La recherche du temps perdu à propos de la Berma, mais non, on est chez Baudelaire, lu par Roland Barthes. Rien n'est inventé dans le poncif, enfin, je translate au poncif ce que Barthes dit du corps chez, petite malhonnêteté intellectuelle, chez Baudelaire. Rien n'est inventé, mais tout y existe dans une intensité multipliée. Et Barthes de conclure son article merveilleusement, je cite, « Nous aimerions bien peu les fleurs du mal si nous ne savions incorporer à l'histoire de leur créateur cette passion atroce de la vulgarité. Je fais l'hypothèse que le poncif est précisément l'endroit où se fige cette passion atroce de la vulgarité, puisque vulgarité vient de vulgus, de peuple et donc de nombre. Tout ce qui est conventionnel, poursuit Baudelaire, et traditionnel, relève du chic et du poncif. » Bref, comme critique d'art, le jeune Baudelaire honnit le poncif qu'il associe au chic. On dirait de la, pardon, le problème de la mode se pose ici, dans ce jeu de texte, entre la reconnaissance de la puissance pseudo-ontologique, attention, je fais de la philosophie, du corps, et de l'autre côté, la reconnaissance de la puissance pseudo-politique du poncif. Pseudo-ontologique, côté vêtements, le poncif signale qu'on touche à la chair des hommes, des femmes et du présent. Pseudo-politique, côté peinture, il signale la théâtralité suspecte des discours. Je peux avoir l'air de vous adorer, en fait, je ne peux pas vous encadrer. Bon. C'est ce dernier point qui arrête et passionne Roland Barthes. Le Roland Barthes des mythologies et plus encore le premier Roland Barthes de la critique théâtrale, le Roland Barthes marxiste et sémiologue, le Roland Barthes, il faut le dire, brechtien, le Roland Barthes qui transforme les lieux baudelairiens, le musée, l'exposition, la galerie, en autant de spectacles du discours bourgeois et qu'il mesure à l'aune moderniste d'un degré zéro et traite conformément à la logique de l'ère du soupçon dont étaient fort éloignés nos camarades marketeurs américains. Sa thèse, les sensibles sont travestis par la société bourgeoise, ça, pour le coup, il le partage, sauf que Barthes le lit avec soupçon et les autres en jouent économiquement. Entre Baudelaire et Flaubert, et en réalité Mallarmé, que j'évacue pour les besoins de la rapidité de ma démonstration, un paradigme moderniste s'élabore. Une littérature qui reconnaît l'état de la langue et de sa diffusion entre apax, comme on dit, chose unique, et prototype. Baudelaire, pour sa part, m'intéresse, d'abord parce que je le connais, j'ai écrit ma thèse sur lui, et Baudelaire m'intéresse parce qu'il situe le poncif comme divisé. Divisé entre la représentation, le musée, l'histoire de l'art, et peut-être le défilé, le grand magasin, etc., et la littérature, c'est-à-dire l'écriture et les mots, et peut-être le stéréotype et le slogan. Le poncif est tout à la fois ce que est l'amateur et ce que vise l'auteur moderne. Il est donc, voilà ce qui me passionne, j'exerce la psychanalyse par ailleurs, l'occasion d'un tourment. Il est peut-être cette beauté spécifique de, pardon, Barbara Carnevali, cette beauté spécifique de la mort de Laura. J'aime quand même Walter Benjamin. Alors, dans cette archéologie pour partie arbitraire, après le moment Baudelaire, je passe aux Allemands. Et aux Anglais, pardon, aux Italiens, aux Espagnols et à tout le monde. Je le considère à partir de deux articles. Ce moment allemand, à partir de deux articles, voilà mon autre maniérisme universitaire, je cite mes sources. Donc, Frédéric Schwartz, qui est le grand historien du Werkbund, non traduit et donc peu lu en France, dans un article intitulé « Cathedrals and Shoes, Concepts of Styles in Wölfflin and Adorno », publié en 1998, et Mark Wigley, dans un article « Fashioning the Modern ». Donc, le premier, Schwartz, documente la défaite des adhérences de tradition, c'est-à-dire le style comme cohérence d'un monde, la perte des formes anciennes, c'est-à-dire tout ce qui précède le lifestyle et qui s'appelle en allemand le Lebensform, et dont la mode est le nom ou l'antonyme. Et de l'autre côté, Mark Wigley, qui fait une démonstration trop peu connue, enfin trop peu connue des étudiants de nos écoles, disons-le clairement, et qui montre comment la querelle du vêtement fait prélude et même organise les doctrines de l'architecture moderniste. Pour ce qui concerne le style, ce terme permet à l'Allemagne, montre Frédéric Schwarz, de penser la naissance de la culture de masse. C'est-à-dire il est ce à quoi la culture de masse s'oppose. Il est ce trait formel qu'on identifie dans différentes échelles d'une culture matérielle, pleine et solidaire, tout sauf l'individualisme moderne. Il renvoie aux conditions d'avant le capitalisme. Il est fondamentalement, dans ce moment allemand de 1900, un état d'esprit. Il s'oppose donc pleinement, dans ce corpus théorique, à ce qui lui succédera, à savoir la mode. Mode qui va bien au-delà du vêtement et qui qualifie autour de 1900 le régime de la marchandise. Mode qui engage une sociologie et une économie bien plus qu'une spiritualité, une religion qu'on attribue au style. Mode qui est, selon Werner Sombart, pour citer un texte phare de 1902, Wirtschaft und Mode, économie et mode, l'enfant chéri du capitalisme. Contre les variations saisonnières de celle-ci, le style incarne, dans cette tradition de pensée, la stabilité de ce que j'appellerais après Zweig le monde d'hier, c'est-à-dire d'avant 1914. Bien entendu, en réalité, la relation entre mode et style, je parle là de concept, fut dialectique. Tel est devenu le style à l'époque de sa reproductibilité industrielle, et Simmel, autre référence que je partage, en 1908, voit dans cette métamorphose une revanche de l'objet à l'âge de la monnaie. Dès lors que l'argent règle tous les échanges, toutes les apparences se valent. Tel serait le régime de la forme dans la vie moderne et l'esthétique s'y tisse dans l'économie. Bref, la promotion du concept de style autour de 1900 organiserait une résistance à l'ère du marché, et tenterait de réveiller de vieilles solidarités. Schwarz repère ainsi, dans ce fond théorique germanophone sur lequel, vous avez vu, je passe assez vite, du tournant du XXe siècle, la seule chose à retenir, c'est qu'autour de 1900, dans la langue allemande, se construit cette opposition entre style et mode, le style étant, pour ceux qui ont vu la série Downton Abbey, alors que la mode va devenir les punks. Là, je suis passé en Angleterre. La matrice, ou les pensées de la culture de masse, ça se discute ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave, on avance. En tout cas, Schwarz voit dans ce magma théorique la matrice où les pensées de la culture de masse puisèrent ultérieurement. Autrement dit, les concepts qui avaient été élaborés du temps de leur jeunesse, voire de leur naissance, semblèrent utiles à la génération de l'école de Francfort. Mais loin d'assumer la partition entre le style d'une communauté et la mode d'une société atomisée, ils identifièrent, les penseurs de l'école de Francfort, dans les productions de l'industrie culturelle, un style fondu dans la mode. Bref, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, il est extrêmement difficile de distinguer objectivement style et mode. Ce sont véritablement des oppositions stratégiques, des manières de tenter, comment dire, de se soustraire au changement permanent que représente la mode. En réalité, on peut quand même changer d'air, et si on remonte à Baudelaire à nouveau vers le milieu du XIXe siècle, et qu'on se déplace vers Londres ou Paris et qu'on quitte le corpus allemand, on constate que tous tentent d'agripper, de nommer le monde industriel de la répétition. Et voilà l'émergence du dandy. Une singularité qui tranche sur la norme. Baudelaire, qui en fait une institution repérable dans l'Antiquité latine comme chez les Indiens d'Amérique, lui a consacré des pages essentielles du peintre de la vie moderne. Je vais vite. Besoin de se faire une originalité contenue dans les limites extérieures des convenances, goût immodéré de la toilette, passion de la distinction. Le style, côté dandy, est chez lui volonté de l'unicité, c'est ça qui est important, au cœur d'un monde devenu homogène. Il est résistance à la normalisation. Né dans l'Angleterre toute puissante du XIXe siècle, le dandy incarne la persistance d'une attitude aristocratique au sein du capitalisme des commerçants. Ma référence italienne serait évidemment le guépard, l'opposition entre l'aristocrate et le bourgeois. Bref, le style est, ici, comme dans la théorie littéraire que je n'évoquerai pas, écart. Il n'empêche, quelles que soient les divergences de ces deux doctrines, doctrine germanophone, doctrine du dandy, cohésion d'une société précapitaliste, d'un côté, différence singulière contre la société marchande, de l'autre, elles partagent toute cette idée que le style est une arme contre le régime de l'identité moderne, identité bien entendu produite par le régime industriel. Je passe donc en mode métaphysique ce que tous décrivent avec la théorie du style ou la figure du dandy. C'est un monde où le non-identique est forclos, un monde pris par une compulsion de répétition, l'hégémonie exclusive de l'identité. Et ici, on peut dire que le poncif revêt d'une certaine manière une charge ontologique. Il est un mode de l'être, mais, ô merveille, il dissout en même temps cette charge ontologique, puisqu'il ne cesse de dissoudre l'être dans l'indéfinie répétition d'une apparence. J'en viens maintenant, ce sera le dernier point de mon exposé, à un dernier texte, au lien entre mode et non pas style, mais architecture moderniste et donc uniforme. À la mort de Le Corbusier, Rainer Banham, sympathique historien du design de l'architecture un peu foutraque à l'anglaise, publie un article, une nécrologie, où il traite Corbus, de façon tout à fait inattendue pour en particulier les Français, ça faut bien le dire, de « fashion master of his age », d'accord, maître de la mode de son temps. Il avait su, aller dire ça dans les écoles d'archi, il avait su inventer les formes que les autres copieraient, le mur blanc étant l'un de ces traits repris ad nauseam par les épigones. Pendant 30 ans, écrit Banham, Le Corbusier a su inventer et plus encore codifier et donner autorité à ces formes. Corbus, qui remarque Banham, avait épousé un mannequin et avait entamé le projet d'une maison pour Paul Poiret qu'il fréquentait. Corbus, snob donc. Corbus fit du mur blanc un poncif. Alors après, j'ai beaucoup aimé l'intervention sur Farg, là, il faudrait voir la diversité des blancs. Mais enfin, en attendant, Banham a ce truc, je dis cette chose absolument géniale. Oui, mais attention, le mur blanc, en fait, c'était un uniforme d'adolescent. Le mur blanc, c'est donc, je traduis, l'adolescence du mouvement moderne. Car, note-t-il, l'architecte, au moment de sa mort, avait depuis longtemps, je vous renvoie à ce qui se passe après la guerre, la deuxième, Corbus brutaliste, Ronchamp, bon, etc. Donc il n'y a plus de mur blanc du tout. Or, il note donc que l'architecture avait depuis longtemps abandonné le mur blanc, à l'inverse de ses épigones. Voilà ce que j'aime. New architecture had a uniform by which friend could be distinguished from foe, a uniform whose adoption indicated that its wearers wanted to be considered as one of the gang. Je traduis vaguement, vous allez comprendre. Donc, cette nouvelle architecture des épigones de Corbus qui s'accrochent au mur blanc, c'est en réalité l'architecture par laquelle l'ami se distingue de l'ennemi. Ça, c'est peut-être un trait français qui persiste, cette guerre civile à bas mots, à coups de poncif. Un uniforme dont l'adoption montrait que vous faisiez partie du gang. Bref, l'architecture moderne avait été réduite par les épigones de Le Corbusier à un uniforme, l'uniforme, ce vêtement paradoxal anti-mode, l'uniforme, ce signe extérieur d'appartenance au gang. L'uniforme surtout, ça c'est le commentaire de Wigley, comme condition de visibilité. Le white wall, le mur blanc, c'est la condition de visibilité de tout ce qui va se détacher sur le fond de ce blanc. On pourrait poursuivre à propos du white cube le même argument. L'uniforme est donc cette forme à partir de laquelle peuvent se compter les autres. The look that was supposed to end the obsessive turnover of looks. D'accord? L'uniforme est ce zéro qui met fin à la ritournelle de l'éclectisme. J'en veux pour preuve, côté mode, ce que Barthes dit, non pas du tout du discours de la mode et du système de la mode, mais de la réalité de la mode. Alors après, il y aurait beaucoup à dire sur l'exemple qu'il prend, dit de l'uniforme de la Chine Mao comme condition de possibilité paradoxale du dandysme. Enfin, il y a un texte génial là-dedans, hein, qui s'appelle Le dandysme et la mode, où c'est tout juste s'il ne vante pas la Chine maoïste parce qu'elle est le dernier lieu dans lequel le dandysme peut exister. Sglurp pour la révolution culturelle, mais enfin, c'est quand même génial. Ce n'est pas, écrit Barthes, la socialisation générale du monde, comme on pourrait l'imaginer dans une société à vêtements rigoureusement uniformes comme la société chinoise actuelle, qui a tué le dandysme. D'accord? Donc le dandysme peut exister dans une société à uniforme, ne peut même exister que dans une société à uniforme. Bref, le mur blanc de l'architecture moderniste fonctionne comme une surface stable sur le fond de laquelle s'enlève le défilé des modes. Il est un fond neutre et surtout neutralisant, neutral and neutralizing ground. Il est cet instrument qui permet d'extirper tout ce qui pourrait infecter la surface. Le mur blanc, l'uniforme, est un dispositif de surveillance, dit Wigley. Scanning the very space. It defined from the infection of fashion. Le mur blanc, poursuit Wigley, est à la fois une caméra, une surface sensible et un système de sécurité. Voilà donc le risque de la mode comme neutralisée par le poncif. Tout ceci, en tout cas, nous indique un fait structural essentiel. En deçà de la mode, il y a sa condition de visibilité et d'éradication. Je choisis de l'appeler uniforme, qui est le mode socialisé du poncif, ce un qui engage à la répétition de l'identique. Tout cela, en réalité, voilà pourquoi je suis légitime à faire la suture, s'enlève, selon Wigley, sur le fond d'une querelle menée par les féministes, les socialistes et les hygiénistes dès les années 1830 et davantage encore valorisée à la fin du XIXe siècle, qui est, pour allons vite, ce qu'il appelle la querelle du vêtement et je traduirai la querelle contre le corset. Dès lors, le discours autour de la mode devient politique et l'enjeu de l'émancipation son nœud. Être moderne, c'est être en mouvement. Et le vêtement doit l'autoriser. Tout ceci coagule en fin de siècle autour des tenues vaporeuses, des pré-raphaélites et des arts and crafts, le mode devenant image même de la modernité. Contre la tyrannie artiste du seul regard, le vêtement assume alors sa fonction, et notamment le jeu entre chair et tissu. Wigley est ici amusant, je vous renvoie à l'article, car ceux-là même qui s'opposent théoriquement à la mode, en réalité, adoptent pour eux-mêmes et plus encore pour leurs femmes la réforme du vêtement. Et il y a, je ne sais malheureusement pas projeter, une merveilleuse photographie de Lowe en maillot de bain avec sa femme pour vous expliquer ceci. En termes nationaux, tous ces Autrichiens et ces Allemands adoptent le vêtement anglais. La mode, en tout cas, telle est la démonstration de Wigley, est un lieu théorique. La mode est un lieu théorique, mais le vêtement n'est pas simple métaphore, il est ligne de partage. S'attachant aux propos de Lili Reich, Wigley note qu'elle vise ce point où la mode dépasse la mode, et donc touche au style. Touche au style, mais surtout Wigley note que pour y parvenir, et voilà pourquoi je suis une bonne élève, il s'agit de discipliner la mode, c'est-à-dire pour que la mode touche au style, il faut qu'elle se discipline. Bref, il s'agit de mettre la surface sous surveillance. Et comme j'ai été bien formée, je termine là où j'ai commencé. Cette affaire, en réalité, est déjà chez Baudelaire. Dans le salon de 1846, Baudelaire évoque l'habit noir. Et cependant, n'a-t-il pas sa beauté et son charme indigène, cet habit en victimé? N'est-il pas l'habit nécessaire de notre époque souffrante et portant jusque sur ses épaules noires et maigres le symbole d'un deuil perpétuel? Une enfilade de croque-morts, voilà ce que nous sommes, dit-il. Nous célébrons tous quelque enterrement. Il regrette évidemment ici la disparition de la couleur du vêtement masculin. Je terminerai sur deux anecdotes. Alors, leçon de mon exposé, si tant est qu'il y en ait une. Le poncif pose donc une question. La différence est-elle encore possible? dans ces murs qui abritèrent tant de fois Jacques Derrida. Je suis ravie de terminer là-dessus, mais je préfère néanmoins deux anecdotes. Alors, une anecdote qui est la déclinaison française et contemporaine du drame décrit par Emmanuelle tout à l'heure à propos de Zimmel. Benoît Jacquot, dans un entretien à propos de Marguerite Duras, écrivait récemment « J'aimais son appétit gourmand pour les lieux communs, les clichés qui recoupaient la littérature de gare et le théâtre de boulevard. Elle était passionnée par les faits divers. Elle forçait au récit, autrement dit, la littérature de Duras, c'est du poncif, mais, rajoute Benoît Jacquot, après quoi, elle rajoutait le tragique. » Donc la manière de faire déraper le poncif, c'est ce tragique. Si j'étais gender studies, je dirais c'est le tragique de la féminité. Mais Duras n'aimerait même pas qu'on dise ça comme ça. Dernier point, et je termine là-dessus, une anecdote récente racontant à un camarade que j'allais intervenir sur un domaine que je connaissais très peu. Ce camarade ayant été, je le cite, Marc Alizart, conseiller pour la mode, les arts plastiques et le design auprès de Frédéric Mitterrand, alors ministre, me raconte comment un jour, je ne sais plus quel journaliste d'un très fashionable journal américain vient faire un entretien avec Mitterrand, est très fasciné par le côté 80s, post-punk de Frédéric Mitterrand, lui dit alors, Mugler, Alaïa, tu m'as dit le troisième, Montana, c'était qui votre préféré? Et là, mon ami Marc croit qu'il va mourir de honte. Frédéric Mitterrand répond, non, non, pas du tout, moi c'était Calvin Klein et le t-shirt blanc, alors avec tout l'homoérotisme de l'affaire. En réalité, Marc me dit, il a raison, jean t-shirt, voilà le poncif, voilà la mode.